Bonjour. Je ne vais pas compléter la présentation, c'est pas très. Ah, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors, ce qui m'embête si je parle ici, c'est que je ne peux plus bouger. Je ne vais pas compléter la présentation d'Oïc parce que c'est pas très intéressant. L'essentiel, c'est qu'on se centre plutôt sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, qui est la question du changement. Et pour commencer à vivre le changement, je vous propose un petit exercice très simple. Je vous propose de changer de place avec votre voisin. Alors, vous avez de la chance parce qu'au départ, je m'étais dit, je vais faire passer les premiers et les derniers. Mais je n'ai pas pris ce risque-là. Ça, c'est un petit changement. Peut-être que vous allez vous dire, c'est un changement sans intérêt. Et pourtant, dans le quotidien de nos vies paroissiales, changer sa place, laisser sa place, c'est parfois un peu compliqué. Parce que peut-être que vous aviez choisi une bonne place et que finalement vous en avez une moins bonne. Ou peut-être que vous vivez ça comme un changement contraint, je ne vous ai pas laissé le choix, et donc vous subissez le changement que je vous impose. Voilà en guise d'introduction, et ce qui va un peu alimenter notre réflexion pendant à peu près 45 minutes. Ce que je vous propose, c'est de nous intéresser à quatre sujets. Bon, peut-être après une introduction sur un premier regard spirituel sur le changement, c'est d'essayer de donner un repère sur la paroisse et la vie paroissiale. Ensuite, c'est de mesurer les impacts de ce que j'ai appelé la centralité du Christ et de donner quelques points de vue sur le changement et ensuite de voir plus concrètement si on met en œuvre le changement, est-ce qu'on peut se donner là aussi quelques repères. Alors, en forme d'introduction, je voudrais d'abord vous dire que changer, c'est entrer dans un acte de foi. Et j'aime beaucoup cette phrase d'Isaïe, « Je te conduis par le chemin où tu marches ». C'est-à-dire, est-ce que nous avons suffisamment foi dans le fait que dans nos changements, Dieu est déjà là en train de marcher avec nous? Parce que nous sommes parfois en résistance, mais est-ce que notre résistance, elle intègre cette dimension de cette présence de Dieu déjà là dans notre manière d'avancer et d'avancer en paroisse ou en église. Donc changer, c'est entrer dans un acte de foi avec donc la certitude que Dieu s'intéresse à nous, à notre vie, Dieu nous connaît, Dieu sait ce qui est bon pour notre paroisse, pour nous, et ce Dieu est déjà là, il est déjà là. L'autre aspect, en forme d'introduction toujours, c'est de vous dire que changer, c'est faire mémoire. Et j'ai envie de nous dire, parce que moi aussi j'appartiens à une communauté chrétienne, une paroisse, c'est qu'il faut retrouver les mémoires de la joie. C'est-à-dire que dans nos vies, dans nos expériences, il y a eu des moments de joie qui font sans doute qu'on est encore là aujourd'hui. Mais on les a enterrés, ces moments de joie, on fait comme si c'était au passé. Et finalement, eh bien, on ne témoigne pas de cette joie qu'on a pu vivre à certains moments. Et c'est un enjeu dans le changement, se faire mémoire de ce qui est bon pour nous, de ce qui nous met en joie, c'est sans doute un élément important du changement. L'autre aspect qui est très lié à celui-ci, c'est finalement faire mémoire des paroles de Dieu qui transforment notre vie. Est-ce que finalement, croire en Dieu, ça nous transforme, et est-ce que cette transformation, c'est du bonheur pour nous? Et si c'est du bonheur, comment nous le transmettons à ceux qui vivent avec nous? Et puis, le changement, c'est une transformation intérieure. Et changer, c'est faire de nos lieux d'échec des lieux d'amour. C'est-à-dire comment, intérieurement, ça nous met en mouvement pour nous aussi entrer dans une forme d'amour inconditionnel pour nous-mêmes et à l'égard des autres. Je voudrais dire aussi, mais ça vous en avez sans doute beaucoup parlé dans le travail que vous venez de faire jusqu'à en début d'après-midi, c'est que changer, c'est aussi entendre l'immense attente des hommes. C'est-à-dire que le changement, c'est pas simplement se regarder, ou regarder sa petite communauté ou sa petite paroisse, c'est regarder ou entendre l'immense attente des hommes. Et dans cette attente, il s'agit pour nous d'oser marcher dans les passages que Dieu nous donne, et je suis sûr qu'il nous donne des passages, hein, comme il en a donné à Moïse, puisque je remets là le texte de l'Exode. Voilà pour cette première introduction, avec une orientation, vous voyez, un peu spirituelle. Alors ensuite, quand Loïc m'a demandé d'intervenir, je me suis dit, mais il faudrait peut-être que je dise un mot sur c'est quoi une paroisse. Alors je suis allé chercher un concept qui s'appelle milieu de vie. Un milieu de vie, c'est un concept québécois qui est développé par les organismes membres de la Fédération québécoise des organismes communautaires famille, et qui définissent le milieu de vie comme un espace qui existe entre des personnes, donc qui existe parce que des personnes s'y rassemblent, interagissent et partagent une expérience. Il est soutenu par un cadre souple et balisé, reconnu et porté par tous. L'informel y occupe une place importante, en complémentarité avec des pratiques et des activités plus formelles. Et le milieu de vie est défini par trois piliers, un espace, la parole et le temps. Donc je me suis dit, tiens, finalement, cette définition du milieu de vie, est-ce que je peux me la réapproprier pour définir la paroisse ? Je voudrais dire au passage que si vous voulez connaître un peu plus ce modèle-là, je vous invite à Grenoble à vous rapprocher d'un lieu qui s'appelle la Maison des Familles et qui tente de mettre en œuvre cette approche du milieu de vie. Si vous avez envie de creuser, allez parler avec les gens de la Maison des Familles. Donc j'ai repris ce concept-là en me disant, mais finalement, la paroisse comme milieu de vie, alors, c'est sans doute une organisation, une communauté, une mission et une réalité. Pour dire ça, j'ai repris le canon 515 qui définit la paroisse, j'ai repris les grandes missions de l'Église et ce que nous dit aussi Vatican II. Alors, on est là dans des registres assez différents. Si vous êtes sur la question de l'organisation, si la paroisse se réduit à une organisation, c'est que vous êtes dans des relations hiérarchiques, vous êtes dans le domaine des procédures, des règles, dans le domaine des droits et des devoirs. Le prêtre devient un manager dans l'organisation. Donc la relation est plutôt contractuelle, y compris pour les bénévoles, puisqu'aujourd'hui on parle de contrat de bénévolat. Et vous avez des entretiens, d'évaluation. Enfin, vous êtes vraiment dans un fonctionnement classique d'organisation. Si vous êtes dans le registre de la communauté, là vous êtes dans le registre plutôt de la fraternité ou de la famille, je ne sais pas comment il faudrait nommer, la famille des chrétiens. Et là, le registre des relations, c'est plutôt une relation d'aide, de soutien, de compassion. Vous êtes dans une logique de service. Les relations sont égalitaires. Et le prêtre est plutôt un père. Il exerce sa paternité. Si vous êtes dans la mission, la visée, c'est l'évangélisation, l'annonce. Et le positionnement, c'est plutôt celui du témoin, ou du disciple missionnaire. Enfin, la réalité, elle nous est donnée, elle est variable selon les lieux où on se trouve. Elle est caractérisée, mais on pourrait là-dessus échanger très longuement, mais par un individualisme quand même très fort, par la question de la désaffiliation, c'est-à-dire aujourd'hui les liens explosent, caractérisé aussi par une méconnaissance de l'Église, c'est-à-dire qu'on ne nous connaît pas. Les gens, dans les célébrations de mariage, de baptême, n'ont pas les codes, par exemple. C'est peut-être la première fois qu'ils rentrent dans une église. Ils ne nous connaissent pas. Et les besoins sont immenses. Mais je ne développe pas plus, parce que là, on pourrait y consacrer une heure entière. Ce qui manque dans mon schéma, et que je rajoute, c'est que ce qui est au centre de ce milieu de vie de la paroisse, c'est le Christ ou la parole de Dieu. Et on va voir, je vais décliner ensuite, quel est l'impact de cette centralité du Christ dans nos fonctionnements. Ce milieu de vie que je décris, il est en recherche permanente d'équilibre. C'est-à-dire des équilibres, par exemple, entre des règles et la liberté, entre l'unité et l'ouverture, entre des rapports hiérarchiques, des relations fraternelles, entre parole de Dieu, parole humaine. Donc il est en recherche permanente d'équilibre. Et on voit bien que c'est parfois complexe à gérer. En tous les cas, ce que je voudrais vous dire, pour arrêter sur cette définition de la paroisse, c'est que vous voyez, je ne sais pas ce que vous voyez de votre place, mais dans le premier schéma à gauche, vous voyez que cette paroisse, l'organisation est très importante, la réalité est très importante, la mission est très importante, la communauté est très importante, et vous avez l'impression que le Christ est tout petit. Dans le modèle d'à côté, vous voyez le Christ très grand et les autres ont pris une place moins importante. Ce n'est qu'une illusion parce que le Christ, lui, il est toujours là et je vous garantis que les deux cercles sont exactement les mêmes. Mais vous voyez bien que si vous donnez beaucoup, beaucoup d'importance aux quatre cercles, vous risquez d'avoir l'impression que le Christ, lui, il n'est plus là. Ce que je dis est discutable. Alors, cette centralité du Christ, elle a des impacts. Et je voudrais en souligner quelques-uns. Le premier, c'est que la paroisse est un lieu de mise en mouvement. Et sans doute que l'un des enjeux, si on met le Christ au centre, le Christ c'est un homme qui marche, c'est un homme qui se déplace. Et la question pour nous, c'est comment allons-nous sortir de notre sédentarité pour redevenir des nomades? Ou peut-être faire du mouvement, du détachement, de l'engagement pour les pauvres, le secret de la joie et du vrai bonheur, puisque c'est la question qui est posée au jeune homme riche. Une seule chose te manque, va, le mouvement, vends ce que tu as, lâche prise, et donne-le aux pauvres, la relation avec les pauvres. Et vous voyez bien que si je m'appuie pour ça, sur ce texte-là pour définir la paroisse, mon organisation ne peut être que légère et adaptable, puisque je vais toujours me déplacer. Donc on est plutôt dans une caravane que dans un château fort, hein. Et je dois proposer finalement des expériences de lâcher prise pour permettre aux personnes de suivre le Christ. Et ma paroisse est sans doute reconnue pour son engagement auprès des victimes de la pauvreté. Donc voilà par exemple un premier impact de la centralité du Christ dans la paroisse. Le deuxième impact que j'identifie, c'est que la paroisse est un lieu d'expérience en profondeur. Va au large et jette ton filet. Donc, on a à la fois le mouvement, mais cette fois on a la profondeur. Et cette profondeur, elle va me permettre d'oser l'aventure. Je pense que nos paroisses devraient réfléchir à des propositions finalement qui vont toucher le cœur, qui vont en profondeur. Autre aspect, mais qui va un peu dans ce sens-là, C'est la paroisse comme lieu où je peux trouver une réponse à ma soif. Bonjour, est-ce que vous pourriez nous marier ? Oui, je peux vous marier, mais quelle est vraiment votre demande ? Quelle est votre soif ? De quoi avez-vous soif ? Et je reviendrai là-dessus un peu plus loin. Je pense qu'il faut revisiter là aussi nos propositions pour vraiment se dire, mais au fond, les personnes qui viennent frapper à notre porte, quelle est leur soif ? Je pense qu'elles rêvent, elles rêvent de bonheur. Elles rêvent d'amour vrai. Mais comment nous nous mettons à l'écoute de leurs demandes, de leurs vraies demandes ? Et puis enfin, la paroisse est sans doute un lieu d'intercession. Vous savez, dans le texte du paralytique, c'est d'autres qui portent. Donc quand je suis épuisé, fatigué, incapable de me mettre en mouvement, sans énergie, sans projet, cloué au sol, d'autres me portent vers le Seigneur. Et comment nous nous portons les uns les autres quand nous nous sentons fatigués, désespérés, etc. Comment on se laisse porter par d'autres vers le Seigneur et comment nous portons, nous, ceux qui sont épuisés par cette vie d'aujourd'hui, comment nous les portons, nous aussi, vers le Seigneur. Vous voyez que tout ça, eh bien, nous conduit finalement à modifier notre perception de la paroisse, et la paroisse devient, sous cet angle-là, un lieu essentiellement relationnel où je peux faire l'expérience de l'amour inconditionnel. Alors tout ça, ça met peut-être la barre un peu haut. Et je voudrais vous dire que ça met la barre haut et finalement nous sommes tous des papillons, c'est-à-dire aussi très fragiles pour porter tout ça. Voilà, je vais maintenant rentrer plus dans une définition du changement pour essayer de vous donner quelques repères. Alors quand on parle du changement, on peut dire beaucoup, beaucoup de choses, donc j'ai fait un choix. Peut-être que vous pourrez puiser là-dedans quelques idées ou quelques repères pour conduire le changement dans vos paroisses. Donc des points de vue sur le changement. Le premier repère que je voudrais vous donner, il nous est donné par le pape François. Donc c'est quand même intéressant. Alors ce texte, je l'ai imprimé. Il est sur des feuilles jaunes. Si vous voulez, en partant, vous pourrez récupérer une feuille. Bon, il y a d'autres extraits de texte que je vais citer un peu plus loin aussi. Et le pape François nous dit « Le changement doit être conçu non pas comme quelque chose qui un jour se réalisera parce qu'on a imposé telle ou telle option politique ou instauré telle structure sociale. » Donc là, il nous dit quelque chose sur le changement contraint. Nous avons appris douloureusement qu'un changement de structure qui n'est pas accompagné d'une conversion sincère des habitudes et du cœur finit tôt ou tard par se bureaucratiser, par se corrompre et par succomber. Il faut changer le cœur. Peut-être que c'est peut-être l'idée essentielle de ce regard sur le changement. Avant de changer mon environnement, il faut peut-être changer le cœur. Voilà pourquoi l'image du processus me plaît tant. Processus où la passion de semer, d'arroser sereinement ce que d'autres verront fleurir, remplace l'obsession d'occuper tous les espaces de pouvoir disponibles et de voir des résultats immédiats. Donc il voit le changement comme le processus de semer. Je sème, mais finalement je ne suis pas centré sur le résultat il viendra un peu plus tard. Cet enracinement dans le quartier, dans la terre, dans le métier, dans la corporation, cette proximité de chaque jour est ce qui permet de vivre le commandement de l'amour. Personne n'aime un concept, personne n'aime une idée. Ce sont les personnes qu'on peut aimer. L'engagement, le véritable engagement, surgit de l'amour envers des visages et des noms qui remplissent le cœur. De ces graines d'espérance semées patiemment dans les périphéries oubliées de la planète, de ces bourgeons de tendresse qui luttent pour subsister dans l'obscurité de l'exclusion, croîtront de grands arbres, surgiront des forêts denses d'espérance pour oxygéner le monde. Voilà le point de vue, il a sans doute écrit d'autres choses, mais le point de vue du pape sur la question du changement vu comme la passion de semer. Un autre point de vue sur le changement pourrait être celui de la marche. Et dans la marche, il y a un déséquilibre. Mais parfois, nous résistons à entrer dans le déséquilibre. Non, on préfère nos sécurités. Pourquoi finalement, pour la messe de Noël, ferait-on différemment de l'année dernière ? C'est beaucoup plus sécurisant de faire comme l'année dernière, parce qu'on a l'impression qu'on garde les deux pieds au sol. Eh bien, entrer dans le changement, c'est accepter d'entrer dans le déséquilibre. Et vous voyez bien que si je ne choisis pas d'y entrer, c'est mon environnement qui va me contraindre à entrer dans le déséquilibre, et là, ça peut me faire tomber, parce que je ne l'accepte pas. Si vous êtes les deux pieds au sol et que j'arrive par derrière et que je vous pousse, vous risquez de vivre ça pas très bien. Donc là, je voudrais simplement souligner que changer, c'est accepter d'entrer dans le déséquilibre. Et je pense que dans les conversations que vous avez pu avoir cet après-midi, peut-être que vous avez perçu ça. Ouh là là, c'est pas sécurisant, il faut entrer dans une position où je suis plus en équilibre. L'autre aspect, c'est le changement comme un mouvement permanent. C'est-à-dire que parfois, on voudrait bien posséder l'endroit où on va. On voudrait se sécuriser en disant, tiens, je suis là, je vais là. Bon, le problème, c'est qu'une fois que vous êtes arrivé du point A au point B, les choses ont déjà bougé encore. Donc, vous êtes dans une sorte de mouvement permanent, comme le torrent. Vous êtes embarqué dans le torrent. Alors, vous pouvez résister au torrent. Mais vous allez voir que ça fait un barrage et la pression monte. Vous finirez par bouger. Donc, comment on est dans le courant? Et je connais des personnes, vous savez, qui sont allées poser les questions là, qu'on nous proposait de poser à ceux que l'on ne voit pas régulièrement dans nos assemblées. Eh bien, on voit bien qu'on est perçu par l'externe comme des gens qui ne sont pas dans le courant, hein. Ils sont au contraire bien posés quelque part, ils acceptent peu de bouger. L'autre point de vue sur le changement, c'est le changement vu comme une transmission. Et là, on a un vrai souci. Excusez-moi, où sont dans notre assemblée les 30-45? Il y en a, c'est bien. Mais on a quand même un problème de transmission. Soit, par exemple, on a des enfants, et par exemple, les jeunes adultes, on les a un peu moins, et puis après, on a une population plus âgée. Donc, comment se font les transmissions? Bon, dans le changement, il y a quand même quelque chose qui se transmet. Et nous, on a une sorte de rupture dans la transmission. Et ça, c'est un problème dans la conduite du changement. Ensuite, le changement comme un mouvement orienté vers une situation spécifique. C'est-à-dire finalement, je vis quelque chose qui n'est pas très agréable, je veux changer pour aller vers du meilleur. Donc je passe d'une situation contrainte à une situation désirée, ou d'un état inférieur à un état supérieur. Le problème, c'est que, en fonction de, par exemple, des générations, pour rester sur la question des générations, le point désiré, le point vers lequel je veux aller, il n'est peut-être pas très attrayant pour d'autres générations. Donc, dans le changement, il faut que j'évalue, finalement, l'endroit où je veux aller et la pertinence de l'endroit où je veux aller. Le changement, c'est aussi le moment du choix. Vous avez vu, j'ai mis un mille pattes, et j'ai mis un mille pattes ne peut courir que dans une seule direction à la fois. Parce que des besoins, on peut en identifier, en identifier, en identifier, mais il va falloir que je choisisse. Il va falloir que je choisisse dans quelle direction, finalement, on veut aller. Et j'espère que tout le travail de ces deux journées, si on s'en ressaisit, permettra de dire « c'est là qu'on veut aller ». Parce qu'autrement, eh bien, chacun va dans son sens et le mille-pattes, il va se casser la figure. Et puis, dernière idée, c'est que le changement est un processus. Alors, je pointe simplement qu'à certains moments, le changement est dénié. C'est-à-dire, pourquoi on changerait? On n'a pas besoin de changer. Mais bien entre nous. Donc il y a parfois une forme de déni ou de confort, c'est-à-dire qu'on est dans le confort, on est bien. Et puis on va essayer de changer, mais on va rencontrer des résistances. Et progressivement, c'est par des petites expériences successives qu'on va finir par intégrer une nouvelle posture ou un nouveau fonctionnement. Et moi, je crois beaucoup à ces petites expériences. En systémie, on dit que si vous arrivez de manière trop massive dans votre changement, vous allez avoir la même résistance qui vient s'opposer à vous. Par contre, si dans votre système, vous faites vivre une petite expérience de changement, réussie, tout le système va se dire « Ah, c'est possible de changer !» Et les membres du système vont être prêts à accepter un changement plus grand. Donc, par l'expérimentation réussie, on peut parfois arriver à faire bouger un groupe, une paroisse, une structure. Toujours sous l'angle du processus, je voudrais vous dire que, vous voyez, on a une situation initiale. Alors, au départ, elle est confortable, et puis progressivement, elle devient de moins en moins confortable. Et à ce moment-là, on se dit, ben, on va changer. Et comme on s'est dit ça, on pense que tout va bien aller. Bien, pas du tout. Au contraire, vous allez plonger. Plonger parce que vous allez rencontrer de la résistance au changement. Et à ce moment-là, eh bien, si vous voulez que le changement réussisse, il va falloir miser sur l'accompagnement. Il va falloir renforcer l'accompagnement pour finalement que les personnes ou les structures que vous faites changer acceptent le changement. Donc, entre le moment où j'annonce le changement et le moment où il va se réaliser, là, il y a besoin de vraiment accompagner le changement. Vous pouvez pas dire, bon voilà, on a eu telle idée, c'est bon, ça roule pour cette année, c'est fait. Non. Si vous faites ça, ça risque de pas très bien se passer. Donc il faut sans doute miser sur l'accompagnement. Bon, je passe le suivant parce que je l'avais mis sous forme de petit dessin. Et toujours dans le processus, je voudrais vous faire remarquer qu'il y a deux types de changements. Un changement de type 1, un changement de type 2. Le changement de type 1, c'est juste un réaménagement. C'est-à-dire, vous vous levez un matin chez vous et vous dites, je veux changer de place les meubles. Vous bougez vos meubles, vous avez réaménagé votre appartement. Ça, finalement, c'est assez facile, c'est assez bien toléré. Et puis, un changement de type 2. Changement de type 2, c'est au contraire, vous dites, j'en ai marre de vivre ici, je recherche un appartement ailleurs. Et là, c'est pas tout à fait la même logique. Vous voyez que pour vivre ce changement-là, c'est plus compliqué. Ça va nécessiter plus d'énergie, vous voyez, ça engage plus de choses. Alors parfois, on est dans nos vies paroissiales, on est dans le changement de type 1, et parfois, on essaye d'introduire des changements de type 2. Alors, entrons maintenant dans la traversée du changement et je vous propose 5 étapes. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais... Bon, peut-être non. discussion compris. Très bien. Alors, premier pas, c'est d'essayer de percevoir l'enjeu du changement, qu'il soit intérieur ou extérieur. Et vous voyez, je vous ai mis une photo avec quelqu'un qui marche sur un fil entre deux montagnes. Donc, ah pardon, ça va mieux, hein? Donc, eh bien écoutez, demain matin, je vous invite, nous allons aller faire cet exercice-là. Nous allons aller marcher sur ce fil entre ces deux montagnes. Il y en a qui sont partants? Par contre, si je vous dis, voilà, la corde qui est là, je la pose par terre, ici, et je voudrais que tout le monde marche sur cette corde. Vous allez me dire, ouais, mais enfin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt quand même. Donc dans le changement, vous allez devoir trouver le bon niveau, parce que si l'enjeu est trop élevé, on ne va pas vous suivre, et si l'enjeu est trop faible, on ne va pas vous suivre non plus. Donc il va falloir trouver l'équilibre pour que finalement ça suscite l'envie de rentrer dans le changement. Alors j'ai remis ici, pour parler de l'enjeu, j'ai remis ici un extrait je vous invite vivement à le lire. C'est Chantal qui m'a fait connaître ce livre qui est ici, qui s'appelle La place de l'autre, qui est un numéro de la revue Christus, dans lequel il y a des choses intéressantes. Et entre autres, pour comprendre l'enjeu, ce qui nous est dit, ce que les autres veulent, c'est tout simplement être heureux, souffrir moins, découvrir le sens de l'existence, s'il en a un, guérir de leurs maux, être aimé. En un mot, ils veulent être sauvés aujourd'hui, ils veulent faire l'expérience du salut dans leur vie de tous les jours. Après tout, n'est-ce pas ce but que Jésus-Christ est venu parmi nous ? N'est-ce pas dans ce but que Jésus-Christ est venu parmi nous ? Il a rendu la santé aux malades, il a consolé ceux qui pleuraient, il a dit des paroles qui réellement apaisaient et vivifiaient, et c'est la raison pour laquelle des hommes se sont attachés à lui. Si dans la rencontre de charité, nous ne visons pas d'abord ce bonheur actuel et concret, toutes les relations manquent de racines. Et je trouve que ça, c'est à nous à être attentifs à cet enjeu-là, cet enjeu de ce que nous demandent ceux que nous rencontrons. Et sans doute qu'ils nous demandent simplement, montre-moi le chemin pour être vraiment heureux, montre-moi le chemin pour être guéri de ce qui ne va pas dans ma vie, montre-moi le chemin pour aimer et être aimé. Parce que ça, je trouve que ça fixe peut-être un bon niveau d'enjeu dans ce qu'on veut faire. Et puis peut-être quand même aujourd'hui, dans l'enjeu, j'ai repris là les besoins relationnels qui sont donnés par Jacques Salomé. Moi je trouve qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de se dire, d'être entendus, d'être reconnus, d'être valorisés, ils ont besoin de rêver. Et comment nous entendons ces besoins pour fixer l'enjeu de ce que nous voulons vivre avec eux. Ma question, mais elle n'est pas très sympa, c'est que j'ai parfois plus l'impression que notre enjeu, c'est de faire fonctionner l'organisation pour l'organisation. Notre enjeu, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre quelle est la réalité dans laquelle nous vivons. On n'arrive pas. On a du mal à vivre entre frères. Parfois, il faut aller faire la police dans les équipes paroissiales. Et notre mission d'évangélisation, elle se réduit à un petit cercle dans lequel on est sûr qu'on ne va pas se faire jeter. Alors, c'est pessimiste. Hein. Mais, du coup, je vous repose la question, c'est quoi nos enjeux? Qu'est-ce qu'on veut? Quel est notre enjeu? Deuxième petit pas, c'est se mettre en mouvement. Et la meilleure idée que je puisse vous proposer, c'est que pour changer, il faut arrêter de faire la même chose. Peut-être que vous pourrez retenir ça. Il suffit, dès la semaine prochaine, d'arrêter de faire la même chose. Et je vous cite cette phrase d'Albert Einstein. La folie, c'est de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à avoir un résultat différent. C'est-à-dire que depuis 10 ans, vous répétez le même programme pour votre messe de Noël, et vous dites, tiens, c'est bizarre, chaque année, on a de moins en moins de monde. Et oui, mais parce que vous faites la même chose et que vous vous étonnez que ça marche pas. Deuxième chose un peu plus compliquée dans le mouvement, c'est comment faire autrement avec les mêmes. Parce que vous voyez, j'ai vu un petit schéma, mais il me faudrait plus de temps pour l'expliquer. C'est quand même, il y a des gens qui ont pris le pouvoir. Où il y a des gens qui disent, moi je sais, et qui ne veulent pas laisser leur place. Et ça, ça bloque sérieusement le mouvement. Alors je vous propose de faire un petit exercice concret, et je voudrais que 5 personnes viennent me voir. Vous risquez rien. Hein. Alors je vais vous demander de croiser les mains comme ça, devant vous. Non, comme ça. Non. Voilà. Et je vais vous demander de vous prendre la main, mais de ne pas prendre la main de votre voisin. C'est-à-dire que vous pouvez prendre la main de quelqu'un, donc mettez-vous en cercle et prenez la main de quelqu'un, mais pas de votre voisin. Ok, voilà. Quand on arrive dans certaines vies d'équipe, tout est emmêlé comme ça. Et vous dites, mais comment on va faire pour démêler tout ça? Ce que je vous propose, c'est de chercher les mouvements sans jamais lâcher la main, de chercher les mouvements qu'il faut faire pour essayer de vous démêler. Ne lâchez pas la main. Encore un peu. Vous allez vous retrouver à l'envers. Merci. Cet exercice marche à une seule condition, c'est que tout le monde accepte de bouger. Si on refaisait l'exercice et je disais à l'un d'entre eux, toi tu bouges pas, eh bien il n'y arriverait pas. Le problème dans la vie des équipes comme ça, c'est que pour qu'il y ait un changement et régler les problèmes, il faut que tout le monde accepte de se mettre en mouvement. Donc le deuxième pas pour conduire le changement, c'est de mobiliser sur la mobilité pour que chacun puisse finalement accepter de se mettre en mouvement. Le troisième pas concerne les représentations. Et je cite à nouveau un extrait de La place de l'autre. L'amour auquel le Christ cherche à nous éduquer suppose la ruine de toutes nos constructions personnelles et la reconnaissance des fondements posés par Dieu. Je dois permettre à l'autre d'exister devant moi tel qu'il est, sans prononcer des jugements hâtifs, sans lui imposer les normes de mes idées préconçues ou de mon système d'interprétation, sans chercher à le faire entrer dans mes projets, mes préoccupations ou mes désirs. L'esprit d'amour, seul capable de rassembler les hommes, est d'abord l'esprit créateur qui vient briser tous nos cadres rigides et froids, qui rend fluide toutes les institutions, bouscule toutes les défenses pour transmettre la vie et le mouvement. Et Dieu sait si on en a des représentations. Par exemple, dans les personnes qui viennent parfois demander le baptême, on dit « Non mais ces gens, ils n'y connaissent rien. » Vous voyez, on réduit nos représentations, on vise à réduire les personnes que l'on accueille. Et ça, c'est nos représentations. Alors, j'illustre ça rapidement, mais vous connaissez tout ça. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Qui voit une jeune femme? Ah, ben il y a des optimistes parmi vous, c'est bien. Qui voit une vieille femme? Ok. Il y en a qui voient les deux? Ah, très bien. Eh bien, si je veux faire passer quelqu'un d'une représentation à une autre, il va falloir que je lui donne des détails. Il va falloir que je lui dise, ben, la jeune femme, elle a une plume sur la tête. Elle est de profil. Et plus je vais donner des détails, plus la personne, elle va pouvoir passer d'une représentation à une autre. C'est-à-dire que si vous voulez faire changer les représentations, vous devez expliquer, dire, pour que l'autre comprenne dans quelle représentation vous voulez le faire passer. Et ça, ça peut demander beaucoup de temps. Et je ne résiste pas, vous pouvez faire un deuxième petit exercice. Si vous avez déjà, si moi j'ai déjà écouté, vous l'avez déjà vu. C'est dites-moi ce que vous voyez. Alors dites-moi, vous la voyez tourner, j'espère déjà. Je suis rassuré. Mais est-ce que vous la voyez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans l'autre sens? Alors, qui la voit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre? Qui la voit tourner dans l'autre sens? Qui la voit tourner dans les deux sens? Vous savez, quand on rencontre des personnes, on se dit « Ah non, non, mais lui, il est sûrement comme ça, hein ?» Et puis votre voisin, il dit « Non, 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 il n'est pas comme ça, et c'est le contraire, il est comme ça. Ouais. » Le seul problème ici, c'est que selon vous, que vous sollicitez votre cerveau droit ou votre cerveau gauche, c'est vous qui la faites tourner dans un sens ou dans un autre. Donc le problème, ce n'est pas ici, le problème, il est ici. D'accord? Je sens que ça va vous traumatiser. Je l'arrête, hein. Le quatrième pas, il y en a cinq, donc il m'en reste deux. Le quatrième pas, c'est la question du temps. Et je ne vais pas rentrer non plus, je vais simplement illustrer, et vous allez très vite comprendre. Je vais vous raconter l'histoire d'une pauvre grenouille. Si vous prenez une grenouille et que vous la trempez dans de l'eau chaude bouillante, la grenouille va rebondir immédiatement. Par contre, si vous prenez la grenouille et que vous faites chauffer, vous la mettez dans de l'eau froide, que vous faites chauffer tout doucement l'eau, la grenouille va mourir. Dans certaines paroisses, ça chauffe tellement doucement que tout le monde est mort. Hein ? Excusez-moi. Hein ? Mais par contre, si j'amène du changement trop vite, je suis rejeté. On dit non, c'est pas possible, ça marchera jamais, donc on va me rejeter. Donc il va falloir trouver le bon tempo au niveau du temps, de la gestion du temps, pour que finalement les choses puissent se réaliser. Et je redis ce que je disais aussi tout à l'heure, dans le changement, 20% pour le contenu, 80% pour l'accompagnement. C'est-à-dire que la bonne idée que vous avez eue, c'est 20%, mais il va falloir 80% pour la mettre en œuvre. Allez, dernier pas, ça va être d'essayer d'identifier, de lever les résistances. Alors des résistances, il y en a beaucoup. Moi j'ai mis ici par exemple l'inertie. Hein, vous avez l'impression que ça n'avance pas. L'argumentation, c'est-à-dire qu'on va toujours, trouver le bon argument pour démonter ce que vous voulez faire. Des jeunes vont venir avec une initiative et ils vont trouver des adultes qui argumentent « Non, tu sais, là, c'est pas possible. Non, ce chant, tu sais, il n'est pas tout à fait liturgique. C'est plutôt un chant religieux. » Oui, ok. Donc on argumente et finalement ça ne se fait pas. La révolte, parce qu'il y a des gens aussi qui s'en vont quand même, hein. Il y a quand même des gens qui s'en vont. Et puis le sabotage, c'est-à-dire on dit, oui, vas-y, ok, on t'accompagne, mais en fait, non, on ne va pas t'accompagner, on va plutôt saboter ce que tu fais. Sur les résistances, je voudrais en souligner deux autres. La première, c'est la question, alors habituellement, en psychologie du travail, puisque je suis psychologue du travail, on parle d'anxiété sociale. Mais je me suis dit que finalement, peut-être, il y avait aussi une anxiété spirituelle. C'est quoi l'anxiété sociale? L'anxiété sociale, c'est moins vous rencontrez de personnes, plus c'est difficile d'aller les rencontrer. C'est-à-dire que si vous restez tout le temps chez vous et que vous voyez personne, eh bien, ça devient, plus vous faites ça, plus ça devient compliqué de sortir de chez vous pour aller rencontrer d'autres. Eh bien, j'ai l'impression que c'est un peu pareil sur le plan spirituel. Moins vous allez à l'église, plus vous allez avoir de difficultés pour y revenir. Et que là, il y a un vrai accompagnement pour permettre à des gens de revenir. Et ce mouvement-là, à mon sens, il mérite d'être accompagné. Parce qu'autrement, les personnes, elles resteront loin. C'est compliqué de revenir. Et dans la même idée, c'est quelque chose que l'on dit à propos des phénomènes d'exclusion. C'est tout sujet humain plongé dans un environnement excluant et susceptible, pour se protéger de cette souffrance, de développer un syndrome d'auto-exclusion. Et je pense qu'il y a des gens qui s'auto-excluent de l'Église. C'est pas pour moi, vous voyez, ce mécanisme-là. Je vous le transpose dans un autre domaine. Vous êtes demandeur d'emploi, vous cherchez du travail. La première semaine, vous êtes plein d'énergie, vous allez faire des démarches, et toute la semaine, vous allez entendre dire « Non, il n'y a rien pour vous ». La deuxième semaine, votre énergie, elle commence déjà un peu à baisser. Au bout d'un mois, elle a vraiment baissé. Et un jour, vous vous dites « À quoi ça sert d'y aller, puisqu'on me répond toujours non ?» Et là, vous venez de vous auto-exclure, puisque vous n'avez plus aucune chance d'en trouver. Eh bien, c'est un peu pareil, me semble-t-il, dans certains fonctionnements. Il y a une telle précarité spirituelle que finalement, je m'auto-exclus. C'est pas pour moi. En conclusion, je vous propose, si vous avez un petit bout de papier, c'est de se dire finalement, j'ai entendu ça, ce qui vient d'être dit, ou ce que vous avez pu faire dans vos groupes. Finalement, et si j'avais 2-3 projets innovants en tête, ou 3 actions, ou 3 lieux prioritaires, ou 3 rencontres où je peux vivre le changement, ou 3 décisions concernant le changement, ça serait lesquelles? Parce qu'autrement, vous comprenez, vous allez avoir entendu ça, mais vous aurez entendu tellement de choses pendant le week-end que vous allez complètement zapper. Donc peut-être, même si c'est une chose, dire tiens, ce point-là, ça me paraît important quand je vais rentrer dans ma paroisse et voilà peut-être le levier que je peux utiliser pour le lieu où je suis inséré. Vous pourrez continuer de faire peut-être pendant qu'on échange un peu. En tous les cas, en forme de conclusion, je voulais dire que il n'y a pas de changement possible sans vous. N'attendez pas je ne sais pas quoi de l'extérieur. Il n'y a pas de changement possible sans vous. Sans votre disponibilité, sans votre mobilité, sans votre capacité à travailler avec d'autres, sans votre audace, sans votre créativité, sans votre consentement, sans votre intériorisation. Il n'y a pas de changement possible sans vous. Mais aussi, c'est peut-être encore plus important, il n'y a pas de changement sans lui. Il n'y a pas de changement sans lui. Sinon, ce n'est qu'une simple association, une simple organisation, c'est plus l'Église. Donc il n'y a pas de changement sans lui. Et je voudrais terminer par un petit bout de texte qui date 1961, mais qui peut-être est une forme de changement. Alors, j'entendais tout à l'heure qu'il était nommé autrement, mais moi que j'ai appelé changement par contagion. C'est un texte de Madeleine Delbrel. Et elle dit « Je souhaite que nous tous qui sommes ici, nous puissions au moins une fois dans notre vie, et peut-être plusieurs fois dans notre vie, annoncer si fort, si passionnément la bonne nouvelle de Dieu, que nous l'annoncions si fort et avec tant de bonté, que cet homme puisse en garder le souvenir, la nostalgie, et qu'un jour où nous ne serons plus là, où personne ne le saura, cet homme s'adresse au Dieu possible qu'il pressent, au Dieu dont on lui a parlé, comme de quelqu'un de vivant et aimant, que cet homme se tourne vers Dieu, qu'il s'adresse à lui. Ce jour-là, pour cet homme, nous aurons fait le maximum, car nous l'aurons mis en contact volontaire avec Dieu. Il aura répondu par un acte élémentaire d'amour à l'amour de Dieu, qui lui l'aime toujours et indéfiniment le premier. » Encore un mot. Alors, je vous propose que dans ce monde désespéré, osons croire à nos rêves et semons l'espérance. Dans ce monde orgueilleux, osons l'humble service, l'humble présence et soyons dans la joie. Dans ce monde blessé, créons du lien et devenons de véritables frères. Osons croire l'extraordinaire de Dieu. Nous avons un Dieu extraordinaire. Il nous aime d'un amour extraordinaire. La puissance de son esprit est extraordinaire. Mais nous avons aussi une vie extraordinaire. Comment pourrions-nous ne pas avoir une vie extraordinaire puisque Dieu est avec nous? Donc nous sommes les témoins de cette vie extraordinaire. Alors n'ayons plus peur et osons l'audace de l'amour. Ce monde a besoin de lui. Merci.